La politique par Albert Philippe Arimond, le 11 juin 91.
De l'amour, d'amitié. Chez l'époux et l'épouse et les autres formes. Rappelez-vous toujours, je n'ai pas besoin de le noter parce que je crois que vous le savez suffisamment, les divers niveaux de l'amour dans l'homme. L'instinct, la passion, l'imagination, puis l'amour spirituel. Et puis alors, on ajoute l'amour surnaturel. Or, c'est l'homme qui aime avec tout ce qu'il est. C'est la femme qui aime avec tous ses niveaux d'affectivité. Par le fait même, dans la diversité, il y a une unité. Et par le fait même, l'harmonie de ces éléments est divers. Il est évident que dans l'amour de l'époux et de l'épouse, l'élément sensible, passionnel et même instinctif, au point de vue sexuel, est plus développé et prend un aspect plus explicite, plus manifeste, l'élément de la sensibilité. Tandis qu'au contraire, dans une amitié de philosophe, dans une amitié de contemplatif, l'élément spirituel sera plus développé. L'élément sensible existera toujours. C'est faux de dire que ça n'existe plus. Mais il sera purifié plus de l'intérieur, sublimé d'une certaine manière, en comprenant bien ce que ça veut dire. C'est comme l'instinct sexuel, peut-être comme sublimé, mais il existe toujours, c'est bien évident. Mais il est dépassé, on ne s'y arrête pas. Vous voyez, c'est là où c'est extrêmement difficile, parce que c'est quelque chose d'extrêmement concret et qui implique une unité dans la diversité. Chaque rencontre d'être humain, chaque type d'amitié implique un équilibre et une harmonie différentes que je ne peux pas donner comme un prototype. La sensibilité des êtres humains est tellement diverse. Et la sensibilité de l'homme et de la femme est diverse. Il est évident que dans l'amour du mariage, de l'époux et de l'épouse, l'élément sensible dans le ton du corps, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, le ton du corps, c'est l'élément sensible, est plus fort que dans une amitié, si vous voulez, de contemplatif. Dans une amitié de philosophe, dans une amitié d'artiste, aussi l'élément sensible est très grand, parce que les artistes sont des êtres très sensibles. Mais il y a une complémentarité du côté de l'homme et de la femme, qui n'existe pas seulement dans le mariage, qui peut exister dans des amitiés très spirituelles. Une complémentarité de sensibilité qui, justement, s'harmonise plus que la sensibilité d'homme-homme, femme-femme. Comme on dit, l'homophilie. Mais ça explique souvent autre chose aussi. Alors il faut comprendre cela, d'abord pour ne pas porter de jugement de l'extérieur. Parce que dès qu'on porte des jugements de l'extérieur vis-à-vis de l'amour d'amitié, on ne comprend rien. C'est tellement quelque chose de grand qu'on n'a pas le droit de juger l'extérieur. Mais on doit essayer de comprendre. C'est quand même Dieu qui a voulu son chef-d'œuvre dans une âme spirituelle unie à un corps. Et le corps est fait pour l'amour et non pas pour la connaissance. En premier lieu. C'est très vrai que le point du côté de la connaissance, du côté intellectuel de la connaissance, les anges l'emportent sur nous. Et du côté de l'amour, nous avons un amour d'amitié naturelle que les anges n'ont pas. C'est prodigieux. C'est comme ça. Et Dieu a voulu le lien entre l'âme et le corps pour cet amour d'amitié. Alors, ce que je disais tout à l'heure à propos du don des corps, c'est le don du corps, me fait remarquer. Alors, ça veut dire que dans tout amour spirituel, puisque c'est un amour, ça prend tout l'être humain. C'est sûr. Mais justement, l'élément spirituel prédomine. Et on ne peut pas aimer avec une âme séparée. Je n'ai pas encore réussi à faire ça. Et je ne crois pas que vous avez fait. Ne le cherchez pas, surtout. Tandis que j'arrive à connaître en laissant ma sensibilité très calme, et mon affectivité très calme, et mon imagination aussi, quand on fait la métaphysique. C'est pour ça que la métaphysique purifie les passions, purifie la sensibilité, plus que des quantités d'autres choses. Parce que c'est justement cet effort prodigieux qu'on fait de faire que l'intelligence séparée, comme dit Aristote, c'est-à-dire l'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même, qui s'exerce pour chercher la vérité. En métaphysique, c'est ce qui se passe. Alors, ça purifie toute notre sensibilité. Et ça pacifie notre sensibilité. Au début, peut-être que vous ne sentez pas beaucoup. Mais au bout d'un certain temps, on le sent très fort. Ça, c'est une ascèse merveilleuse, mais une ascèse joyeuse quand on aime la recherche de la vérité. Et ça équilibre tout. Et c'est du reste pour ça qu'on met de la philosophie même au noviciat. Parce qu'on sent que les êtres humains sont tellement détraqués aujourd'hui, affectivement, et dans leur équilibre humain, et qu'ils ont absorbé des quantités d'erreurs, des choses fausses, pour que tout soit remis en ordre, pour pouvoir aimer vraiment. D'un amour d'amitié dans la charité fraternelle. Et je voulais dire ça pour que vous compreniez bien que c'est bien évident qu'il y a quelque chose de très particulier dans l'amour de l'époux et de l'épouse. Mais n'oublions pas que l'amour d'amitié se réalise dans des modalités diverses. Là, je vois qu'il y a encore des questions. Il y en aura tout le temps dans ce domaine-là. Je crois. S'il y a un lien essentiel entre le don des corps dans le mariage et la fécondité, est-ce que cela veut dire qu'il ne peut y avoir de don des corps qu'en vue de la procréation? Et que, donc, il ne peut pas y en avoir quand on sait qui ne peut pas être source de fécondité. Non! On l'a déjà dit, ça. Et je l'ai déjà dit. Faut faire attention. L'Église elle-même le reconnaît, que le don des corps est une manifestation d'amour. Et donc, que le don des corps a une signification au niveau de l'amour, mais de cet amour particulier de l'époux et de l'épouse, qui implique le point de vue du corps, d'une sensibilité plus forte et qui va pouvoir s'épanouir dans la fécondité. La fécondité ne doit pas être exclue. Jamais. de préciser des périodes de fécondité, des périodes de non-fécondité. Très bien. D'une connaissance plus grande du corps, de la sensibilité et de ce que représente la procréation. C'est très bien. Mais n'oublions jamais que le but du don des corps ne doit jamais être en premier lieu la jouissance. Ça doit être toujours un amour spirituel d'un don. Autrement, ce ne serait plus un acte humain et vraiment humain. Je n'ai pas le droit de me servir de mon corps uniquement pour la jouissance. Je n'ai pas le droit. Mon corps n'est pas fait premièrement pour ça. Il est fait pour être un instrument d'amour pour mon âme spirituelle. Un instrument d'amour pour un amour spirituel. Et pas premièrement un instrument de jouissance. Parce que la jouissance, c'est un amour, quand on recherche la jouissance, hein, je ne dis pas, faisons attention, là encore, hein, pour ne pas me faire dire des choses que je ne dis pas. Ce n'est pas humain quand la jouissance est la finalité. Mais tout amour d'amitié va impliquer une joie. Et des éléments sensibles de la joie. On est heureux de se retrouver. On est heureux de parler ensemble. On est heureux d'être ensemble, en présence. Vous voyez, il y a là une présence sensible qui peut être excellente et qui peut être un moyen de s'aimer plus et de s'aimer spirituellement plus. Donc, la jouissance, quand elle ne finalise pas et qu'elle est comme une surabondance, c'est une sorte de joie qui prend possession de tout l'être humain. Alors, cette joie est bonne. Elle est comme un rayonnement. Elle n'est pas recherchée pour elle-même. Elle ne doit pas être recherchée pour elle-même. Elle demande toujours d'être dépassée et en vue d'amour. Qu'on recherche, c'est l'amour. Mais exactement la même chose. On ne recherche pas le silence. On recherche à aimer. Rechercher le silence, ça peut devenir un égocentrisme terrible. On ne recherche pas la solitude pour la solitude. Même quand on va en Thébaïde. On recherche d'aimer plus. Parce que si on dit « Enfin, je suis libéré de la vie commune », je pourrais être dans la solitude. C'est merveilleux. Attention. C'est pas vrai. On recherche la solitude et le silence pour aimer plus. Toujours. C'est toujours l'amour qui doit nous finaliser. Il y a un amour spirituel. Il y a un amour d'amitié. De don. De tout nous-mêmes. Et de recevoir le don de vie. Je suis évré dans l'ordre surnaturel, évré même dans l'ordre naturel. Alors, comprenons que l'amour d'amitié se finalise par lui-même. Et le don des corps fait partie de cet amour d'amitié. Et cet amour d'amitié avec le don des corps peut devenir source. Peut impliquer une fécondité. Et ce qui nous est demandé, c'est de ne jamais séparer ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni dans sa sagesse. Je n'ai pas le droit de séparer amour d'amitié et fécondité. Je dois au contraire comprendre l'union profonde qui existe entre les deux. rappeliez le fait que l'expression de l'amour, dire l'amour, est relative à l'amour lui-même, c'est sûr. C'est un rayonnement. Cependant, l'expression de l'amour ne fait-il pas partie essentielle du sacrement de mariage? Et oui, parce que ça fait partie de l'amour. Si l'expression d'amour ne faisait pas partie de l'amour, ne ferait pas partie du sacrement de mariage. Puisque le sacrement de mariage, c'est quand même Dieu, le Christ, qui vient lui-même transformer cet amour humain pour lui permettre un amour divin. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de problèmes conjugaux viennent d'une mauvaise communication. Oui. Et la communication n'est pas nécessairement l'expression. Mais ça se tient. Il y a un lien, mais c'est pas la même chose. Alors enfin, vous semblez dire que l'union des corps dans le mariage n'est qu'un exercice, certes, important, mais qui ne prendra pas, mais qui, mais l'union spirituelle du couple. Sur quoi alors porte le caractère substantiel de l'union dans le mariage? Est-ce le fruit d'une unification chrétienne? D'un peu, écris un peu rapidement. Je comprends. C'est... Bon, alors je vois à peu près ce que ça veut dire. Je ne veux pas du tout diminuer l'union des corps, c'est pas ça du tout. Si vous l'avez compris comme ça, ce que je veux dire, c'est pas ça qui structure en premier lieu l'amour d'amitié. Voilà. C'est une modalité d'amour d'amitié. Mais c'est toujours le même sens analogique. Vous savez, il faut acquérir ça, c'est très très important. Parce qu'autrement, on retombe dans l'université. C'est terrible. Qu'est-ce qui fait la ratio amitié? Il faut que la philosophie aille jusqu'au bout dans l'ordre de l'amour. C'est un amour spirituel réciproque. On aime l'autre pour l'autre. On se donne à lui. C'est ça l'amour d'amitié. C'est ça l'amour spirituel. Il est extatique. Cet amour d'amitié se trouve réalisé de façon différente, dans les modalités différentes. Alors, comprenons bien, d'abord, que cet amour qui fait partie de la ratio amicitiae. Qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié? Je vous ai rappelé que l'amour spirituel ne peut pas se séparer de tous les autres niveaux d'amour. Premièrement. Donc, quand j'aime quelqu'un, même de façon très spirituelle, ma sensibilité en reçoit les émotions. C'est bien évident. Dès qu'on aime quelqu'un, on devient bout de pierre. On n'est pas indifférent. On s'embrasse, on se donne la collade. C'est quand même quelque chose, un petit signe. On se serre la main profondément. On montre par là. On se sourit, on se regarde. Quoi. Des êtres qui s'aiment beaucoup plus qu'un sportif. Je t'aime beaucoup. Je vais tout le temps regarder, jamais. Ça prouve qu'on est gêné, intimidé. Quoi. Quelque chose qui ne va pas, quoi, tout simplement. On aime avec tout ce qu'on est, c'est évident. Et l'amour épanouit notre sensibilité, notre imagination, notre intelligence. On devient intelligent quand on aime. Ça, c'est sûr. Et quand on n'aime pas, on devient moins intelligent. Et très très souvent, le progrès créent l'intelligence. Et l'épanouissement de l'intelligence provient de l'amour. On n'a pas aimé l'école. On s'est rasé à l'école. Alors on a perdu beaucoup du développement de son intelligence. Tandis que si on avait aimé la recherche de la vérité, on aurait trouvé un intérêt. C'est pour ça que la paresse provient toujours d'un manque d'amour. Toujours. Donc, quand on aime avec tout ce qu'on est. Mais, il y a une hiérarchie. Et c'est l'amour spirituel dans l'amour d'amitié qui domine. Puis, il y a des modalités. Et la modalité très particulière est celle de l'amour des contemplatifs, de ceux qui recherchent la vérité, de qui cherchent à aimer vraiment spirituellement, d'une manière contemplative. C'est très grand. Et j'ose dire que c'est l'amour d'amitié le plus grand. Même au point de vue purement humain. C'est là où la modalité de l'amour d'amitié se réalise de la façon la plus parfaite. Mais c'est très rare. C'est vrai. Faut se le dire, c'est très rare. Et quand ça se réalise, c'est magnifique. Puis, il y a l'amour d'amitié chez l'époux et l'épouse. Ou alors, le ton des corps apparaît avec toute sa force. Où l'élément sensible et passionnel et instinctif est intégré dans cet amour d'amitié et lui donne son caractère spécifique, particulier. Et cet amour implique un fruit, la fécondité, selon la chair et le sang. Mais cet amour d'amitié est déjà particulier en lui-même. Dans cet élément sensible, qui est beaucoup plus explicite, qui est beaucoup plus net, dans le ton des corps, et qui fait que cet amour d'amitié a un caractère très particulier, qu'il a à la fois un poids et une légèreté, et l'une des deux, parce qu'il implique le ton des corps. Donc il faut bien saisir ça. Et puis, il y a un amour où le point de vue spirituel est beaucoup moins fort. Et quelquefois même, il disparaît. Pas complètement, mais il est au service de la passion. Il est au service de l'instinct. Il est ordonné à la jouissance. Il est ordonné à l'aspect utilitaire. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de dons. Et le point de vue intellectuel diminue la réalisation de cet amour. Oui, là vous saisissez bien la diversité de ce qu'il y a de commun dans l'amour d'amitié. Alors je continue à partir de là. Nous avions commencé de voir comment l'amour d'amitié dans le mariage, puisque c'est la philosophie du mariage que nous faisons, implique une exigence de responsabilité de l'époux à l'égard de l'épouse et de l'épouse à l'égard de l'époux. Responsabilité mutuelle. Avec un respect toujours plus grand de l'épanouissement de l'un et de l'autre. Et ceci dans les goûts personnels. Je ne crois pas que l'amour dans le mariage pourra demander à l'épouse, si par exemple elle est très artiste, musicienne, d'en faire complètement le sacrifice. À cause de l'époux qui n'a aucun sens de la musique. Aucun. Ça la somme. Comme disait un père, frère, Fribourg, la musique d'un beefsteak. Alors vous voyez tout ce que ça voulait dire. Heureusement qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas épousé quelqu'un de très musicien ou très artiste. Il aurait fait le malheur. Je donne cet exemple parce que c'est typique. Alors c'est comme disait un, je me souviens, c'était quelqu'un qui avait des qualités merveilleuses pour regarder les lignes de la main d'un grand ami des Dominicains du Faubourg Saint-Honoré. Il était venu une fois à Fribourg. Je le connaissais bien. Alors à Fribourg, il y avait des pères dominicains très particuliers, très spéciaux. Alors j'avais dit, ça vous intéresserait beaucoup de regarder les lignes de la main de chacun des mains. Alors regardez. Oh, heureusement que vous n'êtes pas marié. Il n'a pas dit ça pour moi. Il a dit ça pour le voisin. Heureusement que vous n'êtes pas marié. Quand on connaissait. Celui qui disait justement qu'un air de musique, c'est un beefsteak. Ça explique beaucoup de choses, ça, vous savez. On voit très bien qu'il faut une harmonie profonde, sensible, humaine, intellectuelle, artistique. Une harmonie qui ne veut pas dire que les deux doivent être des poètes, des deux artistes, mais au moins un respect. Parce que l'harmonie implique un respect, et quelquefois, c'est la meilleure des complémentarités. D'un respect, on respecte l'autre. Et on l'aime dans sa variété. Et c'est ça que j'appelle le respect mutuel, vous voyez. Et qui doit aller très loin. Et plus l'amour d'amitié augmente, plus il faut que c'est ce respect. Et c'est là où on voit comme un amour d'amitié vieillit bien quand le respect augmente et s'intensifie. Quand il n'y a pas quelque chose d'extérieur. Et la responsabilité commune dans la fécondité. Il faut une responsabilité commune qui fait que le fruit de leur union, l'enfant, sera pris en charge par l'un et l'autre, tous les deux ensemble. C'est une œuvre commune. Et c'est à partir de là que commence l'éducation. Et elle commence tout de suite, dès qu'il y a conception. Une mère attend son enfant en portant une responsabilité grande, surtout aujourd'hui où on sait combien c'est important. Et une mère qui n'aurait aucun souci de l'enfant qu'elle porte serait irresponsable comme mère de quelque chose de grave. Il faut au contraire augmenter la conscience de cette responsabilité. Parce que ça joue. Et l'éducation commence déjà dès ce moment-là. Évidemment, pour le mari, ça consiste à être en harmonie avec son épouse. Si son épouse ne peut plus faire autant de sport qu'avant, si elle aime beaucoup le sport, il faut que le mari, lui aussi, modifie son train de vie, sa manière d'être. C'est très très important, ça. L'enfant est attendu. Vous voyez, comme l'Église aime les avants, comme l'Église aime ses temps de préparation, et qu'elle veut qu'on en ait pleine conscience, et qu'on ne les considère pas du tout comme des moments où on a encore de la liberté, pas du tout. Les fiançailles, les moments d'attente pour la naissance de l'enfant, du petit. C'est pas indifférent. Il faut qu'ensemble, on trouve le style de l'attente de l'enfant. Et l'amour de l'attente de l'enfant. Un mystère d'avant. ça doit se faire ensemble. Puis la naissance. Ça aussi, c'est important. On a attendu ensemble. On doit vivre ensemble ce moment de la naissance. Et pour certaines femmes, pour certaines mères, il peut y avoir comme une sorte d'angoisse, surtout lorsqu'il s'agit du premier. Ce qu'on représente, ce dernier moment de l'attente, cette angoisse de la naissance. Et cette angoisse de la naissance, quand on est tout proche, doit être portée ensemble. Et le mari n'a pas le droit d'en faire l'économie. Ça se regarde. C'est des questions de femmes. On voit de temps en temps des hommes qui disent ça. Et c'est terrible, ça. Parce que c'est justement ne pas comprendre ce qu'est l'amour d'amitié. Le démon rôde, ça c'est au point de vue chrétien, l'Apocalypse nous montre. C'est curieux. Si l'époux n'est pas toujours conscient de la part qu'il doit jouer durant cette attente, durant cette préparation, durant cette ultime préparation, on sait que l'autre réveillé. Parce qu'il saisit les moments où il peut y avoir une fragilité plus grande. Pour briser l'amour d'amitié. C'est très rude pour une épouse d'avoir l'impression que son époux est comme indifférent à la naissance. Ça aussi, on reçoit des confidences de cela. Et on voit très bien ce que ça représente. L'époux, comme un étranger, il ne veut pas montrer son affection, ne veut pas montrer son amour, alors qu'il sait que son épouse est plus fragile. Il sait que c'est elle qui porte. Il ne veut pas manifester sa tendresse. Il veut rester un homme. Au fond, il ne veut pas que le moment de la naissance soit vraiment pour les deux et pas seulement pour l'épouse. Et Jésus demande à l'épouse de vivre ça avec une très grande force. Plan chrétien, plan du mariage. Et donc il demande au mari. Ça c'est vrai au point de vue du sacrement de mariage, mais c'est vrai au plan philosophique de l'amour d'amitié. Et c'est très important. Parce que c'est à ces moments-là où l'époux peut montrer le plus combien il veut faire œuvre commune. Puis après, c'est la première éducation. Là, je dirais la même chose. L'époux qui est un véritable époux ne peut pas se désintéresser. Et il sait que son épouse a besoin de lui. Même dans la première éducation, qui est maternelle, normalement. Qui est très maternelle. Mais pour qu'elle soit maternelle, il faut qu'elle relève d'un cœur d'épouse qui aime. Elle n'est mère que parce qu'elle aime son époux et parce que l'époux l'aime. Parce que justement, le fruit ou l'œuvre commune de l'époux et de l'épouse ne peut être l'œuvre commune que si l'amour de l'un et de l'autre est source